C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour ces séances de renforcement de capacité initiées par l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons aborder la thématique « Bonnes pratiques agroécologiques en agriculture, méthodes et outils de gestion durable des terres, d'adaptation au changement climatique et d'agroécologie ». Mais pourquoi une telle thématique ? C'est Maxime Gousset, le directeur du renforcement des capacités des acteurs de l'ATDA du Pôle 7, qui va y répondre.
Il s'agira à travers donc, de l'animation de cette thématique que je viens d'évoquer sur Supra, de permettre aux participants d'être capables d'énumérer et d'expliquer les bonnes pratiques d'agroécologie pour la protection et la réhabilitation des terres. Les participants donc, doivent comprendre également les avantages environnementaux et économiques des pratiques agroécologiques. Vous comprenez que nous sommes désormais dans un environnement où il y a l'essor de l'accroissement de la population, ce qui nous amène en matière donc des différents biens qui existent sur cette terre d'être rares. Et au même moment, vous avez également noté que les besoins que nous avons pour le développement de l'agriculture, notamment en matière d'intrants, ces besoins-là ne sont pas en quantité suffisante et quelquefois pas toujours appropriés pour la spéculation pour laquelle nous travaillons. Et ça veut dire quoi? Nous devons aller à la recherche des solutions que nous avons à côté. Et pour ça, vous avez déjà l'habitude d'utiliser ce genre de solutions à travers l'animation donc de la session avec les pressions ressources qui sont identifiées. Vous allez essayer de faire partage d'expérience et de connaissances et d'ajuster un certain nombre d'informations qui existent déjà à votre niveau au fin d'accroître donc la productivité et la performance de nos filières au niveau de TDA.
Bien à vous, directeur du renforcement des capacités des acteurs de l'ATDA du Pôle 7. À présent, nous allons nous entretenir avec nos personnes ressources sur la thématique du jour avant de vous proposer à la fin de l'entretien un condensé de leur message en langue nationale fond. Je reçois alors Monsieur Isaïe Adjé et Monsieur Kokou Teblekou. Ils viennent tous du cabinet Sol Consult Africa. Monsieur Teblekou, nous allons démarrer avec vous. Dites-moi pourquoi la question de gestion durable des terres est importante aujourd'hui.
Nous avons un peu massacré la terre qui est en fait notre vie, parce que sans la terre, nous ne pouvons pas vivre. C'est la terre qui fait la vie de l'humanité. Mais les pratiques agricoles depuis des millénaires ont un peu relégué au second rang cette terre sans lui apporter les soins nécessaires au point qu'elle s'est retrouvée dans un état de délabrement qui ne permet plus de nourrir l'agriculteur. Donc, il faut pouvoir permettre à l'agriculteur de se dire je peux vivre de la terre.
Quelles sont les bonnes pratiques d'agroécologie que les agriculteurs peuvent développer?
Il y a essentiellement 8 bonnes pratiques agroécologiques en agriculture durable qui sont premièrement la gestion intégrée de la fertilité des sols, l'agriculture de conservation, la gestion intégrée de l'agriculture et de l'élevage, la conservation des eaux et des sols, l'agroforesterie et les forêts individuelles, l'adaptation au changement climatique, la mécanisation agricole adaptée, et la gestion des ravageurs.
Je vais me retourner vers M. Adjé, qui nous donnera plus de détails concernant ces pratiques que vous avez citées, M. Teblekou. Prenons la première pratique. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre, M. Adjé?
Les 8 catégories de pratiques agroécologiques qui viennent d'être citées peuvent se détailler comme suit. À commencer par la gestion intégrée de la fertilité des sols. Cette catégorie de mesures ou de pratiques agroécologiques contient 3 principes fondamentaux, à savoir la maximisation de l'utilisation des différentes ressources organiques d'engrais et à minimiser aussi les pertes en éléments nutritifs et à utiliser judicieusement les engrais minéraux. Par exemple, l'utilisation des plantes améliorantes comme le mucuna ou le pois d'Angole ou même le niébé qu'on appelle communément haricot et le soja, pour ne citer que ceux-là. Dans cette catégorie aussi, il y a comme exemple les résidus de récolte. Il y a d'autres méthodologies comme l'amorçage des semences.
Parlons de la deuxième pratique qui concerne l'agriculture de conservation. En quoi consiste-t-elle au juste, Monsieur Adjé?
Par rapport à cela, on parlera de la couverture permanente du sol. On parlera aussi du travail minimum du sol. Et troisième principe, l'association des cultures, la rotation et l'assolement des cultures. C'est les trois grands principes de l'agriculture de conservation. Ça regroupe, comme vous le voyez, le Mukuna dont on vient de parler là, participe à cela. Parce que ça permet de ne pas travailler le sol. Il y a une couverture permanente du sol avec les feuilles de Mukuna. Et on peut lui associer d'autres cultures. À elle seule, l'agriculture de conservation permet déjà de résoudre beaucoup de problèmes.
De façon pratique, comment peut-on appliquer cette pratique liée à l'agriculture de conservation dont vous parlez?
Je prends par exemple l'association de cultures. Nous, les agriculteurs le font fort bien au Bénin. En agriculture, je dirais, traditionnelle, où l'agriculteur peut semer le maïs en association, par exemple, avec le pois d'Angole. Dans les champs d'igname, on y trouvera l'igname et on y trouvera beaucoup d'autres cultures qui sont des légumes, par exemple. Ça, c'est l'association de cultures. L'avantage est quoi? Les différentes plantes-là ont des niveaux d'enracinement différents. Ça leur permet d'explorer plus ou moins profondément le sol et ramener les éléments nutritifs qui sont dans le sol à la surface. Quand leurs feuilles vont courir, c'est un peu comme si ces plantes-là ont ramené l'engrais en profondeur à la surface pour les plantes qui ont des enracinements beaucoup moins profonds.
Une autre pratique de gestion durable des terres et d'adaptation au changement climatique est la conservation des eaux et des sols. Pouvez-vous nous expliquer comment cela se fait?
Il y a deux grands principes là. Il y a la collecte des eaux du sol, surtout l'eau de ruissellement. Il y a des dispositifs, notamment autour des arbres, qu'on utilise en agriculture pour faire de micro-captage. Et à cause de sa forme en demi-cercle, on l'appelle demi-lune. Et bien orienté, l'eau qui vient du haut de la parcelle est captée par cette demi-lune là. Et oblige cette eau-là à s'infiltrer plutôt que de ruisseler vers les bas-fonds à proximité. Donc ça, c'est un dispositif de captage, ça. Mais il y a un autre dispositif, c'est la barrière en travers de la pente. Quand la pente est prononcée, on peut faire des billons qui sont perpendiculaires à la ligne de la pente et ça freine l'eau. Et l'eau est obligée de s'infiltrer, arriver au niveau de ces gros billons-là qu'on appelle des ados. Et ça protège le sol et le sol n'est plus entraîné vers les rivières pour se retrouver dans des fleuves qui vont en fin de compte à la mer.
Parmi les bonnes pratiques citées est apparue la gestion intégrée de l'agriculture et de l'élevage. En quoi consiste-t-elle au juste?
Si je suis éleveur, je dois m'intéresser à l'agriculture, à la production végétale. Et si je m'occupe de l'agriculture, spécifiquement à la production végétale, je dois m'intéresser à la production animale.
Quel est l'intérêt?
L'intérêt, c'est que les deux interagissent pour créer des synergies, c'est-à-dire des avantages. Quand les deux sont ensemble, les avantages produits sont supérieurs à la somme des avantages produits et séparément par l'agriculture ou bien par l'élevage. En pratique, on peut citer l'exemple, par exemple, d'utiliser les fumiers, qui sont les déjections animales qu'on mélange avec de la paille et qu'on apporte au champ. De même aussi, l'éleveur fait brouter de la végétation à ses animaux.
Monsieur Teblekou, avec vous, nous allons parler d'une pratique que vous avez évoquée tantôt, l'agroforesterie et forêt individuelle. Comment cela s'applique?
La première idée qui me vient à l'esprit que je voudrais partager avec vous, c'est qu'au départ, c'était la forêt. Mais les pratiques agricoles ont dégradé la forêt. L'agriculture doit pouvoir continuer. Mais comment faire? C'est qu'il faut pouvoir aujourd'hui faire une intégration des plantes ligneuses vivaces aux cultures annuelles, et où à l'agriculture, et où à l'élevage.
Et comment ça se fait?
C'est de pouvoir cultiver ensemble sur le même terrain, et les arbres, et les cultures annuelles. Les cultures ouvrières, par exemple, doivent pouvoir cohabiter
avec les arbres qui doivent faire plus de temps, plus d'années sur le terrain. Et des dispositions sont prises pour que cette cohabitation puisse se passer aisément. Et deuxièmement, maintenant, nous avons les forêts plantées à l'échelle d'une plantation ou à des fins commerciales. C'est-à-dire, l'agriculteur peut décider rien que la forêt, comme la forêt était au départ. Mais là, c'est spécifiquement la forêt qui est en place. Et en son temps, comme ils le disent eux-mêmes, ça constitue un peu leur retraite, leur épargne. Et quand ils viennent, 4-5 ans après, s'ils veulent faire de la forêt de courte durée, c'est-à-dire les taillis, 4-5 ans après, ils peuvent passer, vendre les bois et avoir des ressources. Et nous avons la jachère plantée.
Que direz-vous à propos de l'adaptation au changement climatique?
L'adaptation au changement climatique vient un peu pour résoudre un problème. Vous savez, ces derniers temps, le climat a reçu un grand coup dû à nos pratiques, au point qu'il y a eu une perturbation. Les manifestations sont là, visibles, et nous avons essentiellement les inondations, la sécheresse et les vents violents. Ce sont là qui sont les manifestations du changement climatique. Et dans cette catégorie, on vise 3 principes. Il s'agit d'anticiper, de limiter les dégâts éventuels et profiter des opportunités potentielles qui existent. Supporter les changements qui vont s'opérer, c'est-à-dire mettre en place des cultures qui nous permettent de supporter ces changements qui vont intervenir et réagir et faire face aux conséquences ou se mettre à l'abri des dégâts. Mais nous avons dans cette catégorie, M. Adjé l'a abordé tout à l'heure, l'amorçage des semences, les variétés tolérantes, les semis précoces, les variétés précoces et les semis échelonnés dans le temps. Ça veut dire quoi, semis échelonnés? Comme je prends cet exemple particulier parce que c'est une pratique que nous recommandons, parce qu'aujourd'hui, les pluies n'étant plus régulières, au lieu de laisser l'agriculteur semer tout son champ, il le fait de façon échelonnée. Quand il y a une pluie et qu'il doute du fait que cela puisse continuer, il prend une partie du champ qu'il sème et il attend. Et dès qu'il y a une autre pluie, il sème une deuxième partie et peut-être une troisième partie. Ça lui limite un peu les risques. Parce qu'il mettait tout et que la sécheresse intervient, c'est que tout son champ va partir et il n'aura rien à récolter. Mais en faisant ça, il a la chance au moins que s'il y a des perturbations, qu'une des 3 étapes puisse lui permettre d'avoir le minimum nécessaire pour vivre. Ça, c'est ce qui est des semis échelonnés. Là, ça lui permet quand même de pouvoir tenir, même si les conditions sont devenues défavorables.
Cette question, je la pose à vous, Monsieur Adjé. La gestion durable des terres appelle aussi à la mécanisation agricole adaptée. Quelle est son importance aujourd'hui?
Qu'est-ce que ça contient? C'est que d'une manière générale, on a parlé de la pétrisation minimum du sol, c'est-à-dire le principe du labour est revu dans cette catégorie de mesures. Et il est intéressant aussi qu'on puisse respecter la densité pour qu'on puisse tirer le maximum du sol. Et là, la machine aussi intervient en semant à des intervalles précis. Et en plus, la machine permet de réduire la pénibilité du travail, de l'accélérer, ce qui permet à une seule personne de nourrir 9 autres. Donnons un exemple. Il y a le travail du sol avec un outil qu'on appelle le coutrier. C'est une lame qui rentre dans le sol. Au lieu de remuer tout le sol, ouvre seulement la ligne de semis, sinon les lignes de semis. Mais ça nécessite un gros effort. Une machine ou bien les animaux peuvent le faire. Et quand on va dans le champ, le reste du champ n'est pas perturbé. C'est la ligne de semis seulement qui est ouverte et on sème dedans. Ça permet de faire vite. Et une petite pluie, au lieu de commencer par chercher à labourer un grand champ, on sème ce même jour-là. Et il y a beaucoup d'autres choses que la machine peut aider l'humain à faire tout en préservant l'environnement. C'est ça le contenu même de la thématique mécanisation agricole.
Alors, parlons maintenant de la gestion des ravageurs. Nous savons que c'est l'une des préoccupations majeures en agriculture. Que recommandent les pratiques de gestion durable des terres à propos?
Les ravageurs, c'est ces animaux, que ce soit des insectes ou autres animalcules, qui causent des dégâts sur les plantes qui doivent servir à l'alimentation humaine. Il s'agit de protéger alors ces plantes cultivées-là, afin que le potentiel de production puisse continuer d'être élevé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lutter contre la pullulation de ces ravageurs. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a des plantes naturelles qui permettent de limiter la proportion. On ne va pas les éliminer, les exterminer. Ils participent à la biodiversité. Leur présence est utile à quelque chose, mais il faudrait limiter ça à un niveau pour que leur pullulation ne cause d'autres problèmes. L'excès en toute chose nuit. Parce qu'il y a des animaux qui quittent ailleurs, qui viennent sans d'autres animaux qui les contrôlent dans le milieu dans lequel ils étaient. Il suffit d'importer les autres animaux qui réduisent la pullulation des ravageurs là. Et il y a un équilibre qui se rétablit. Il y a un équilibre naturel qu'il ne faut pas que, par notre erreur, par l'erreur humaine, qu'on rompt cet équilibre-là. Et une des choses qui peut rendre l'équilibre, c'est le fait de ne pas respecter les doses d'application des produits homologués. Ou bien, aussi, éviter d'utiliser des produits qui peuvent être toxiques pour la santé humaine. Parce que c'est plus efficace, ça agit d'un coup. Non, c'est la mise en pratique de l'ensemble de ces principes-là qui montre qu'on est en train de gérer les ravageurs d'une manière appropriée.
Merci à vous, Monsieur Adjé, puisque nous venons de clarifier les 8 pratiques qui participent à la gestion durable des terres. Nous allons à présent parler des avantages environnementaux et pourquoi pas économiques d'une gestion durable des terres. Et ce sera avec vous, Monsieur Teblekou.
Nous avons comme avantages environnementaux en à peu près 5. Nous avons la fixation des espaces agricoles. Pour pouvoir gérer durablement les terres, faire une gestion durable des terres, c'est de fixer les espaces agricoles. Parce qu'il faut qu'on sache là où on doit cultiver et comment cette culture doit se faire. Et il y a des terres fragiles. Vous savez, aujourd'hui on parle des zones humides, donc c'est pourquoi les Nations Unies ont classé certaines zones fragiles. Donc, dans chaque continent, dans chaque pays, il y a ces zones fragiles. Et il faut pouvoir les préserver. Même si on veut y produire, il faut pouvoir y produire et tenir compte de leur fragilité pour savoir ce qu'il faut apporter. Et troisièmement, il faut préserver les réserves foncières et forestières. Et il faut diminuer aussi l'érosion hydrique et éolienne, parce que le vent souffle, le ruissellement emporte les terres, le vent aussi en emporte. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut pouvoir avoir des arbres qui brisent un peu la vitesse, aussi bien de l'eau que du vent. Maintenant, comme je le dis, l'agriculteur a besoin de se remplir la poche. Il a besoin de l'économie. Qu'est-ce que cette gestion durable des terres lui apporte? C'est d'abord l'augmentation des rendements des cultures. À un moment donné, les terres ne donnaient plus rien parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si un sol devient comateux, un sol devient mort, ça, tu as beau mettre d'engrais, ça ne donnera rien. Donc avec la gestion durable des terres, ces terres reprennent vie et peuvent permettre d'augmenter les rendements des productions agricoles. Nous avons la suppression du labour ou un labour minimum. Monsieur Adjé l'a dit tout à l'heure. La grille de conservation exige que la terre soit moins secouée. Il y a aussi la suppression, la réduction des sarclages. Vous savez, quand nous étions tout à l'heure en train de travailler ce matin, les agriculteurs disaient qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. Et on recourt à l'herbicidage. On met des herbicides pour tuer les herbes. Donc, avec la gestion durable des terres, on peut lutter naturellement contre les herbes. Il y a la réduction des doses d'engrais minéraux. J'ai dit tout à l'heure, plus de doses, le sol devient acide. Et si le sol devient acide, il devient impropre à l'agriculture. La gestion durable des terres implique des trucs comme les plans de couverture, tel que le moukounan, le poids d'angol. Il y a l'intégration de l'agriculture, on l'a dit tout à l'heure. Ce qui vous mettrait l'agriculture et l'élevage, l'agriculteur qui a en même temps l'agriculture et l'élevage lui apporte quelque chose. Apporte encore de cette digestion au sol, à son champ. Donc, il achètera moins d'engrais pour son champ et il pourra vendre les aliments. De deux, les arbres qui sont là pourront être vendus. On a dit tout à l'heure que s'il y a un taillis, c'est-à-dire une production à court terme de l'arbre, ça peut permettre à l'agriculteur, en 4-5 ans, de disposer de vendre ses bois et de disposer de l'argent, comme perche, comme bois de feu. Il y a l'augmentation de la rentabilité de l'agriculture. En faisant ça, c'est que l'agriculture peut nourrir son homme. À un moment donné, les agriculteurs sont devenus pessimistes. Ils se demandent si l'agriculture peut les nourrir. Donc, si on peut leur redonner confiance avec cette pratique de gestion de la terre, je pense que c'est une opportunité qu'ils aient confiance en eux et qu'ils commencent et qu'ils reprennent davantage.
Pour finir, Monsieur Adjé, pouvez-vous nous citer quelques conditions pour une meilleure réussite de la mise en œuvre des différentes mesures dont nous venons de parler?
Une des mesures, c'est que nous devons, les humains doivent utiliser des semences de qualité, que ce soit végétales ou animales, pour avoir les meilleurs produits, pour que ces êtres vivants continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre les objectifs et mettre en application ces différentes mesures qu'on a citées et qui sont des mesures agroécologiques. En plus de cela, il faudrait également s'adapter à une meilleure situation. Les mesures-là sont adaptées à des cultures, pas à toutes les cultures à la fois. Ces mesures sont adaptées aussi à un type de relief donné. En plus de cela, on doit tenir compte également du climat, d'où l'adaptation au changement climatique. Si on prend en compte ces divers éléments-là, on pourrait alors avoir un type d'agriculture modèle.
Merci à nos deux invités du jour. C'était un entretien très enrichissant pour moi. Je parie que c'est également le cas pour vous qui nous suivez actuellement. Alors, nous avons prévu un condensé en langue locale fond de ce qui a été dit en français. Prêtez-y attention, chers auditeurs.
Emi kanito bojo pekun gle doa fio dio nemi na blogbe bo kanin miene yo de no plegbe bunu ai goso ni ai kuma fifo sin wiwa o edo fre kanin enyu ende yo ne kan level do jin kun de legbe bona mo gugu e kanin na no gu gbagba se to na no nyo bon se na hokwe yo miene yo glesi do na level zebu asona bo edo kanin yo na do jin kun edo jin kun na do kanin aye royo madion e so sukudo e minano legle be hojin kun kerea e hojin kun lewo atikan do nagona o tekan waya yo vozen waya agontin waya akaju waya hun e do nan do bo e na pitia bo na blada blada lo pade do flebo hojin kun e nan lo le poyu poyu do atikan ne me e ne yin do po mo do popo na do zwo ton toka toka do glepon la tomen do gleton di e je wenu na je o kemen na no favo chi na no jan mi ku ku aye ho ma di o e so mo me deni na le gleni me a e ma ma kala mo me ni e le gleni me so vo mo me boni na fa peni me a ndu do ton e zo ku ku ma ku a so te me de le no do gle me e no blo bo en la do ni je na bon bon na wa a so ne bi o e do ven glesi e ro me ta un alianu temete zomo temete ben zomo dagbe pipeton ben na yin do zomo gija ben lezo aglemo levo aso na ben agbagre yo inedo edia anianu ekpe bonyoni akin mamitan yo bo mi wa so do akin mamitan me emina ha ikun mamitan he gbre yo inede so inaje yuton bona sundo we bagre si yo egege chiono be bonu we chiono be bonu le supo kaka nu le bagre fun e ko blo pole ma dio grele mi dio kemɛ ozu ozu ne do ya dɔne mi ye tam ɔ mi do na ba nye ngrenye ibo bɔde akpatɔ e o kun ɔdo ne nanɔ do ngbe do amakpa glɔgbɛ bɔ kundodo ya singbagre ya imagba wa jɛ o mɔna mo vɛ do gletse mɛ ya nye ne de so ina de so ponazi wa sɔna do gle mi tɔ lɛ mɛ nde gbɛ no do ya ni jinukun gege bɔ ehɔn mɛ diɲɔ amasiɛ no fún edo nufutɔ de sinɔ wo pɛrɛpɛrɛ do fún amasiɛ no fún edo jinukun mɛ bɔ mi do dudu yɛ mi de sinɔ edo nuwa do mi wo e o nde gbɛ mina fɔn haha o amasi tɛ amasi dagbe amasi tɛ amasi bɛyin dɔ jire mi de sinɔ mi da bɔ nuyɛ kpikpekpo bɔ nuvinuvi nua ba komi bɔ nua do ya do ni jinukun mi tɛ o yɔ emi fún mina no mɔ kɔdo sa fún yɔ ene de sinɔ lɛbɔ nuyɛ.
Nous n'en dirons pas plus sur la thématique « Bonnes pratiques agroécologiques en agriculture, méthodes et outils de gestion durable des terres, d'adaptation au changement climatique et d'agroécologie ». Merci de nous avoir suivis depuis l'une de nos 5 radios partenaires, à savoir Radio Topa, Radio La Voix de la Lama, La Voix de la Vallée, Radio Gerdes et Radio Locosa. À très vite.